Comme dit Serge, c'est un vaste programme. Donc, quand Guy m'a demandé de vous parler des rapports entre le labo et l'industrie, effectivement, je me suis dit, oh là là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ce que je vais essayer de vous faire, ce que vous allez voir, c'est une synthèse qui couvre le passé et le présent, qui ne peut pas, évidemment, excusez-moi, être exhaustive, puisque vous imaginez tout ce que... J'ai découvert un certain nombre de choses en faisant cette présentation, tout ce que le labo fait avec l'industrie. Donc, j'ai essayé de couvrir quelque chose de manière la plus large possible. Et évidemment, si j'ai oublié, obligatoirement, j'aurais oublié des gens, j'aurais oublié des projets. Donc, surtout, ne m'en veuillez pas. Alors, en fait, on a trois grands types de relations avec l'industrie qui sont ce que j'appelle la sous-traitance au quotidien. Donc, c'est les sociétés avec lesquelles on travaille régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, tous les mois, pour des tâches qui sont répétitives et qui nous aident dans des domaines dans lesquels on n'est pas capable de faire. La prestation sur appel d'offres, quand on fait des marchés. Et puis, la valorisation avec ou sans transfert de technologie. On va avoir des exemples de tout ça. Et puis, je vais développer ça dans le cadre de l'histoire et de livraison du labo. Et puis, je vais aussi faire évoquer un petit peu au niveau supérieur, c'est au niveau du CNRS, du INV3 et du CNRS. Alors les débuts, on en a beaucoup parlé ce matin, donc vous allez revoir des photos que vous avez vues. Donc le LINAC, les industriels qui étaient pionniers à l'époque, donc au niveau du génie civil, c'est la Société des Travaux de l'Est qui a construit l'accélérateur. Donc au niveau du LINAC, donc les clistrons et l'instrumentation, c'était CSF, vous en avez parlé ce matin. Et puis au niveau des aimants, c'est Chaumont-Schneider avec l'aide de Creusot-Loire, en fait, pour les masses de 500 tonnes en fait, qui servaient. Donc Chaumont-Schneider s'est occupé des bobinages. Et puis les premières expériences de physique, alors j'ai repris cette photo-là, qui était à échelle humaine, on les a vues ce matin, beaucoup de ressources internes à l'époque, le laboratoire travaillait beaucoup en ressources internes, ateliers, câblage, électronique, était principalement au tout départ basé sur des développements maison, parce qu'il n'y avait pas encore de carte industrielle comme on va voir par la suite, et finalement l'arrivée des châssis minimes au milieu des années 60, de la société Chronetic, je ne sais pas pourquoi ça bouge comme ça, permet aux physiciens de câbler eux-mêmes leur électronique, et là... les photos qu'on a vues ce matin, effectivement, ça fait une grande toile d'araignée. Par contre, ça a un avantage, évidemment, c'est que ça permet de faire des choses qui vont évoluer et qui vont changer. Donc je reconnais que c'est quelque chose qui a dû être extrêmement pratique pour s'adapter à ce qu'on voulait faire. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'interaction forte avec l'industrie. Alors, dans les années 70, il y a eu la création, qui a été évoquée tout à l'heure, du groupe CERN par Pierre Lehmann. Et à ce moment-là, on a été en contact avec le CERN, on a eu des premiers contacts avec l'industrie pour réaliser au niveau mécanique des choses qui ont été utilisées dans les expériences comme les hyperons 28 GeV, NA3 et les hyperons 300 GeV. Donc, qui étaient principalement de la fonderie, des composants optiques et de la grosse mécanique. Donc, l'instrumentation industrielle est rentrée, côté électronique, dans l'ère des cartes complexes et des bus de données. Donc, les châssis NIM, on est passé au châssis CAMAC avec un vrai bus de données, donc on pouvait faire de l'acquisition, ce qui n'était pas le cas avec le NIM. Et puis, KN, Hewlett-Packard et Lecroy ont commencé à fournir des cartes. Oups, je sais ce qui se passe. Voilà, donc vous voyez un exemple ici. Donc des cartes avec des fonctions complexes qui permettaient vraiment de réaliser des choses intéressantes. Donc l'électronique des manips était basée en partie sur ces châssis qui étaient câblés avec des câbles de type divers, BNC, LEMO, multivoie. Moi, je me souviens des ADC Lecroy là, qui étaient utilisés dans les manips avec des câbles... Des câbles coax qui arrivaient en bande et en nappe et qu'on rentrait dans des châssis CAMAC remplis d'ADC, donc c'était ça qu'on utilisait à l'époque. On développait des pas de cartes avec des ADC dessus, mais oups là, décidément, mais j'ai du mal hein. Pour les cartes spécifiques et les fonctions avancées, parce que l'industrie, ces cartes ne fournissaient pas toutes les fonctions dont on avait besoin, et bien, il y avait des développements bien sûr en parallèle qui étaient faits ici. Donc tout ce qui était very front-end, je dirais, et tout ce qui était un peu spécifique était réalisé au laboratoire et tout était câblé à la maison. On fabriquait les circuits imprimés ici et on câblait les cartes. Donc là, il n'y avait pas de sous-traitance vers l'industrie. Et on a même développé dès 1973 des hybrides. Vous les voyez ici, et Jean-Luc vous le remontrera demain, des circuits hybrides pour DM1. Alors, les années 80. Donc, on arrive dans les années 80, là, on fait un saut, on passe vers une des années où on commence à industrialiser. Donc, vous voyez ici, vous avez des exemples de cartes. Donc, le nombre total de voies, les manips deviennent des grosses manips. On est au CERN, on a des grosses expériences. On est conduit à développer nous-mêmes des câbles, y compris des câbles et des cartes. On met en place les premiers marchés pour la production de ces câbles et de ces cartes. Et nous commençons à développer des hybrides aussi de plus en plus performants. Donc, je vous ai montré quelques exemples de cartes pour NA31, de câbles d'Axon pour NA31 ici. Cette carte qui est un bon souvenir pour moi, parce que c'est la première sur laquelle j'ai travaillé dès 1984, qui malheureusement on a arrêté la production au milieu. Et puis ici une carte pour UA2, vous voyez des cartes filles qui ont été testées dans les châssis CAMAC et qui ont été montées sur ces cartes qui ont été produites dans l'industrie. Oh, décidément. Voilà, donc les années 80, côté mécanique. Donc pour la mécanique, on continue à développer et à produire en collaboration avec les industriels, ce qu'on a déjà commencé dans les années 70. Et en particulier, je vais vous montrer des exemples ici, les octotubes pour topé, donc qui avaient été fabriqués pour Alu Suisse. Donc ce sont des tubes Geiger qui étaient assemblés, qui avaient, donc le polissage interne avait été fait avec des billes de verre, comme expliquait Serge, pour avoir une surface parfaite à l'intérieur. Des boîtiers en aluminium, ici des cadres pour NA14. Alors vous voyez, la société Flab qui a fait ça à l'époque était tellement... C'était quelque chose qui, au niveau européen, était ce qui avait le top niveau de ce que pouvait faire l'industrie à l'époque, au niveau à la fois de la taille et du poids de cet objet en aluminium. Et vous voyez, ça, c'était le journal de l'époque, 1982, où il se servait de ça comme une vitrine pour la boîte elle-même, pour la technologie, dans une revue spécialisée. Donc ça montre que les choses qui étaient faites pour le labo étaient au plus haut niveau technique. Donc pour UA2, il y a eu des coques en composite. Pour Cielo, il y a eu des cryostats pour être installés à DESY. Et puis ici, j'ai montré les structures hadroniques du calorimètre de H1 qui ont été développées chez Framatome. Et sur cette photo, vous voyez les équipes du CEA, du LAL et de Framatome, tous les ingénieurs ensemble, devant une roue. Une roue comme ça pèse 56 tonnes, en fait. Il y en a trois, c'était les roues du central barrel du calorimètre hadronique que vous voyez en place ici. Il y avait trois roues comme ça, 56 tonnes, alignées à 0,1 mm. Hein. Vous voyez la difficulté technique du projet. Excusez-moi, je bafouille avec ça. Alors, quelques mots sur le LEP avec Aleph et Delphi. Donc, qu'est-ce qui a été fait à l'époque dans l'industrie? Donc, il y a les secteurs du calorimètre électromagnétique, en fait, ont été assemblés au labo, mais à partir d'éléments qui avaient été fabriqués dans l'industrie. Il y a eu les fameux câbles bleus, là, qui avaient les 432 câbles que j'ai testés moi-même, je m'en souviens, qui avaient été fabriqués à la CEPAC. On avait fait les cartes qui vont lire en fait les secteurs du calorimètre électromagnétique avaient été produites ici avec des hybrides céramiques et on a vu des problèmes sur ces hybrides. Il a fallu faire un deuxième, deux ans après, refaire une version. Je vais vous en dire un mot sur la page suivante. Avec l'un des premiers circuits intégrés conçus au LAL en techno 2.4 microns. Et ça a été la première fois que Jean-Jacques Veillet finalement a lancé l'idée de mettre un plan qualité pour la production au niveau de l'électronique parce qu'il y avait eu des défauts sur la première production. Il a fallu recommencer et là il fallait que ce soit parfait, il fallait que ça tienne. Côté Delphi, on a assemblé 700 cartes shaper pour la TPC à Bordeaux, à la CEPAC, et des câbles multivoies. Non, décidément. Alors voilà le plan qualité, voilà les cartes dont je vous ai parlé juste avant. Donc c'est la deuxième version en fait, de la carte multiplexeur pour Aleph. Donc, vous voyez dessus les 6 puces ASIC qui avaient été ici développées au service électronique, dessinées par Jean-Pierre Richer. Donc vous avez fait une liste de types de défauts, vous voyez, et ici vous voyez apparaître ces défauts. Il y avait trois types de tests qui étaient faits. Il y avait les tests in situ, donc ce sont des lits de clous. Un test final qui était un test fonctionnel, et avant, en fabrication, ils avaient fait, c'est pas dans l'ordre, ils avaient fait un test visuel en fait, en fabrication. Vous voyez, quand fabrication, en test, ils trouvaient un certain nombre de défauts. En test in situ, le vrai test fait en production, c'est celui-là qui donnait le plus d'infos, mais on trouvait encore des problèmes en test final. Donc, c'est la première fois qu'on a eu un tableau comme ça et un résultat officiel de suivi de production. Alors, dans les années 90, c'est une transition en fait pour l'électronique. Entre le LEP et le futur LHC. Donc, on n'a pas de grande production pour le CERN pendant ces années-là. Par contre, on a beaucoup de recherche et développement. Ceci dit, en parallèle, il y a de gros détecteurs qui vont demander de produire des séries importantes comme H1 en beau. Alors, sur H1, donc, je vous ai montré une photo là-haut d'une des cartes. Le PCB et le câblage étaient faits en sous-traitance, mais c'était toujours en dessous des seuils de marché. Donc, on n'a pas eu besoin de faire de marché pour H1. Puis, on a fabriqué aussi des hybrides de ce type-là. Vous voyez, céramique avec des résistances taillées au laser, donc ça commençait à être vraiment pointu, donc ça c'était au début des années 1990. Hein. Et puis après on passe à Babar, ce qui est la fin des années 90, donc on a eu plusieurs contrats avec l'industrie, donc pour les câbles, Watson faisait cette partie de connecteur, le câble Draka et ATI qui faisaient les petits coax qui sont branchés sur le culot des PM. Et ça, on a profité là-dessus de l'étude qui a été faite pour Atlas, puisque cette partie du câble est la même que pour Atlas, en fait. Et puis la carte DFB, qui était notre premier gros marché avec définition complète. Donc je vais vous en dire plus de ce genre de choses juste après. Donc, j'ai dit un mot ici de la politique d'approvisionnement des composants. Donc, il n'y a pas de règles prédéfinies. Jusqu'au milieu des années 90, tous les approvisionnements étaient, effectivement, on achetait tout au labo, et puis on donnait, pour faire fabriquer les cartes, on donnait tout aux gens qui allaient faire l'assemblage. Donc ça permettait de maîtriser les coûts, on avait des quantités qui étaient gérables parce que les manips n'étaient pas trop grosses, il n'y avait pas trop de cartes à faire, et les composants étaient encore manipulables, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'une loupe ou d'un binoculaire pour voir la résistance ou la capa, donc on pouvait les manipuler. Et puis à l'arrivée des composants montés en surface, et en particulier l'évolution vers les tout petits, qui sont des 603 ou 402, là, qui sont tellement petits que c'est plus petit qu'une tête d'épingle, vous ne pouvez pas les voir, il était évident qu'à ce moment-là, le conditionnement de ces choses-là ne permettait plus de les fournir de façon simple aux industriels. Donc on a commencé à aller vers des, ce qu'on appelle les marchés clés en main, qui incluaient les approvisionnements de tous ces composants-là par les industriels. Et nous, en fait, on fournissait uniquement les choses spécifiques, c'est-à-dire les ASIC, évidemment, qu'on réalisait au labo, qu'ils soient analogiques ou numériques ou mixtes, et puis des composants spécifiques, qui étaient des trucs pointus qu'on voulait continuer à maîtriser. Donc, des choses comme ça arrivent parfois, c'est qu'on avait des industriels qui avaient des marchés, du fait qu'ils avaient des marchés, leur propre marché de production faisait qu'ils avaient accès à certains composants de façon très très bon marché. Par exemple, Thomson Cholet pour Altera, ils utilisaient des Altera partout dans les circuits qu'ils faisaient pour l'armée, en fait. Ils étaient donc à la moitié du prix que nous, le meilleur prix qu'on pouvait avoir ici. Donc c'était évident qu'on leur a fait, on n'avait pas prévu d'acheter ces composants, de leur faire acheter. Finalement, c'est eux qui les ont achetés parce qu'on a gagné beaucoup d'argent. Malheureusement pour nous, c'est pas fréquent, et heureusement pour leurs concurrents, on va dire. Alors, la politique de production des cartes en série. Donc, ce que je viens de dire, on a tendance à faire des marchés clés en main, dans lesquels l'industriel s'engage à nous fournir un produit fini. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on préfère faire ça que de dire on va faire une partie du travail par un, une partie par l'autre. Et à partir du moment où ça passe par nous, automatiquement, s'il y a un problème, on va dire que, comme on est au milieu, c'est à nous de le gérer. Tandis que si on demande un marché où tout est clé en main, c'est à l'industriel de gérer les difficultés s'il y en a. Donc, il doit approvisionner. Il choisit son fabricant de circuits imprimés sur la base de critères que nous définissons, comme par exemple la finition du circuit ou bien la qualité des résines et les tenues en température, assemble les cartes, fait les déverminages si nous le demandons, configure le circuit programmable, ça c'est important parce que maintenant on a des circuits programmables sur toutes nos cartes, ça prend une demi-heure ou une heure à charger, donc on met ça dans le cahier des charges. On fait faire des tests de fabrication donc avec des robots à pointe mobile, je vais vous montrer des photos après, de Boundary Scan, ou parfois des tests in situ, et rarement, ce qu'on avait fait pour Babar à l'époque, c'est des tests fonctionnels, c'est-à-dire qu'on installe un vrai banc de test chez l'industriel. On lui apprend à tester nos cartes et il passe nos cartes dessus. Alors c'est le test le plus puissant qu'on peut faire, mais c'est un très gros investissement parce qu'il faut un banc supplémentaire et il faut former les gens. On avait fait cet effort pour Babar et ça avait été très positif à l'époque. Alors voilà des exemples de tests en production dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça c'est actuellement, ce sont les cartes de l'HCB qui sont en cours de production, les cartes Fontaine qui sont chez Lodren à Lorient. Donc voilà par exemple un Takayan, vous voyez c'est un robot avec des pointes, ce sont des grosses aiguilles qui se déplacent en fait. Et qui vont taper tous les composants du circuit. Et en fait, ça mesure non seulement le fait qu'il y a une continuité, mais ça mesure l'impédance. Donc, par exemple, tous les composants vont être vérifiés. Si c'est une résistance, on va vérifier sa valeur. Si c'est une self ou une capa, on va vérifier sa valeur. Et donc, ça permet d'obtenir beaucoup plus d'informations que juste la continuité. Donc, c'est quelque chose de très puissant. Donc, ça, ce sont des programmes qui sont développés par les industriels. On leur donne les caractéristiques de la carte et c'est eux qui développent les programmes. Ça, c'est l'étuve dans laquelle on fait les cycles de température. Donc, on programme des cycles pendant 72 heures, de montée et descente en température sous tension pour déverminer les cartes. Et ça, c'est les alimentations qu'on fournit. Et là, vous voyez ce qu'on appelle un bon Boundary Scan, dans lequel on va, à partir d'un PC, on va aller renvoyer des données et checker en fait la continuité entre tous les composants programmables qui sont sur la carte. Donc ça, ce sont des choses maintenant qu'on utilise de façon courante et c'est assez récent quand même. Alors, politique de choix du sous-traitant, c'est quelque chose, je ne pouvais pas, il y a des industriels qui sont là, je voulais absolument en parler. Pour expliquer comment on fonctionne, donc je ne vais pas vous raconter tout ça, mais vous voyez cette chose-là, c'est une synthèse, ce n'est pas des documents qu'on a recopiés quelque part, c'est une synthèse que Pierre Humbert et moi-même avons faite à partir de notre... C'est l'usage client, je vais dire, des problèmes de marché à l'INEP3. Alors ça a été évoqué ce matin, et j'avais l'oreille grande ouverte, là quand j'ai entendu notre député nous dire qu'il parlait de supprimer les appels d'offres pour les marchés pour la recherche, et là je veux dire, si ça arrivait, je serais extrêmement heureux, et je pense qu'il n'y a pas que moi ici. Et puis j'ai entendu Yves Rocard qui parlait du fait que c'était des choses qui étaient assez lourdes et c'est vrai. Donc vous voyez, donc ici j'ai mis les règles générales. Donc on a deux types de relations avec les sous-traitants. Donc au quotidien, comme je vous disais tout à l'heure, un certain nombre de sociétés avec qui on travaille vraiment au quotidien quand on a besoin et pour des petits projets. Et puis pour les gros projets, on fait des appels d'offres. La règle générale, c'est les 4000 euros. Jusque-là, on est en libre. Entre 4000 et 90 000, il y a les fameux PUMA, mais ça c'est quelque chose qui est rapide. En une semaine, normalement, on a la réponse. On peut prendre une décision au bout d'une semaine. Par contre, vous voyez, dès qu'on arrive à 90 000 euros, ça devient compliqué, même si ce n'est que 3 semaines, et puis au-dessus de 130, alors là, c'est les fameux 52 jours, et là c'est des choses qu'il faut vraiment prévoir à l'avance. Et alors, si vous voyez, tout ce qu'on a à rédiger ici, c'est un cahier des charges administratif, un cahier des charges techniques, un règlement de consultation. Et ce règlement de consultation, en fait, quelque chose d'assez nouveau, nous oblige à hiérarchiser l'importance des différents éléments du marché, c'est-à-dire l'exemple qui sont là. L'expérience de la société dans le domaine, exemple montage, démontage des BGA, on va donner par rapport à notre projet quelle importance on pense que ça a par rapport à notre marché. Est-ce qu'ils ont un atelier qui sera dédié pour nous? Quel niveau d'équipement ils ont? Est-ce que c'est un scanner à rayon X? Est-ce qu'ils ont un testeur à pointe mobile? Parce que ces choses-là sont très importantes pour faire les tests de production. Les délais d'approvisionnement, fabrication, sécurité, voyez, proximité et le prix évidemment. Mais ce n'est pas l'élément unique et principal. Alors, après, on va analyser les offres, hein, quand on va les recevoir. Alors ça, c'est une procédure qui est très officielle, hein, qui se fait sous la responsabilité de l'INEP3. Et alors là, j'insiste bien pour les industriels présents, c'est très cruel, mais la moindre irrégularité, il manque un bout de papier, il manque une signature, quoi que ce soit, même si votre offre est la meilleure, elle ne pourra pas être retenue. Donc il faut vraiment vérifier absolument avant d'envoyer une réponse à un appel d'offres que vous avez tous les éléments et qu'ils sont complets. Ça, c'est vraiment important, parce qu'on a eu des fois des choses très tristes à ce niveau-là. Donc ensuite, au niveau du labo, nous réalisons en fait une réflexion collective. Donc on fait un groupe avec les concepteurs, physiciens, responsables de fabrication, dessinateurs, acheteurs, et on se met ensemble et on étudie, et à partir de ça, on va créer un tableau comparatif qui va nous permettre vraiment de peser toutes les offres. Ensuite, on va choisir les sociétés les mieux placées, et si on l'a indiqué dans le marché, parce que si on ne l'a pas indiqué, on ne peut pas visiter, on va aller visiter les sociétés qui sont les mieux placées. Si jamais il y a des questions, informations complémentaires, ça c'est important, elles ne peuvent être transmises que via l'IN2P3, pour respecter l'égalité des chances. On n'a pas le droit de discuter avec une société ou sans en parler avec une autre de quelque chose tant que la réponse au marché n'est pas faite. Donc après la réponse, on ne peut pas discuter ce que je viens de vous dire tant qu'on n'a pas répondu. On est par contre à la disposition, une fois qu'on a donné notre réponse, c'est quelque chose qui est éthiquement important pour nous, on est à la disposition des sociétés non retenues pour donner les raisons du pourquoi elles n'ont pas été retenues. Et ça, c'est le but du jeu, c'est qu'elles pourront améliorer leur offre pour mieux se positionner pour les marchés suivants, qui peuvent être le marché de notre labo, mais de tous les autres labos. Hein. Et surtout un message aux sociétés présentes qui est très important, ne pas vous décourager, continuer à répondre, même si c'est parfois lourd. On a des exemples récents de sociétés qui, après avoir été déprimées plusieurs fois, ont obtenu le marché et finalement ont prouvé leurs compétences et après vont pouvoir travailler avec nous à nous. Alors les contrats en électronique, actuellement, en voilà quelques-uns. Donc les plus gros récents en cours sont liés au LHC, évidemment. Hein. Donc pour Atlas, il y a eu la réalisation des 6400 harnais pour les 200 000 voies du calorimètre, donc c'était un contrat de 17 millions de francs. Vous voyez ici les harnais montés sur le secteur du calorimètre. Et puis actuellement, en cours, toujours la production des 132 cartes de la calibration par la société MLEC. Pour LHCB, on a 262 cartes front-end en cours de production. Je vous ai montré les photos donc à l'Audrin. 35 cartes croc qui sont ici par la société Altrel à Lille. Et 70 fonds de panier en Angleterre par team. Vous voyez, donc on fait aussi sous-traiter en Angleterre. Donc en mécanique... Michel vient d'en parler dans le film justement de Virgo, donc des deux bras d'interféromètre, donc des 6 km de tubes à vide avec les 400 éléments de 15 mètres, donc c'est effectivement le plus gros marché, 68 millions d'euros passés à ce jour. Il y a 7000 mètres cubes d'ultra vide, donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Il y a eu des suites de production extrêmement rigoureux. Vous voyez ici donc les éléments, là, ici l'assemblage, il fallait faire des salvanches, il fallait faire des outils spécifiques, donc il y a eu vraiment un énorme travail par le sous-traitant pour être capable de fabriquer tout ça. Les compensateurs qui sont ces énormes pièces, il a fallu briquer cette presse là de 25 tonnes aussi qui était, et ça a été fait par hydroformage, et c'est pareil, la technique qui a été utilisée là, c'est quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été utilisé pour des choses d'un tel diamètre. Donc pour Virgo, on peut dire que tout ce qu'il y avait à faire était au-delà de ce que savaient faire les sociétés, donc ça a été une collaboration finalement entre les ingénieurs et les physiciens du laboratoire et les sociétés ont permis aux sociétés finalement d'améliorer énormément leurs compétences. Hein. Et puis il y a eu 4 grandes vannes ultra-vide en acier aussi, dont j'ai pas de photo ici, qui ont été développées. Ce fut une première, pareil, faire des vannes cette dimension de société, puis il y a eu une collaboration pareil très active. Et puis là, effectivement, j'ai oublié ce robot là qui a été réalisé, qui a permis sur le site de souder les différents éléments. Donc les autres contrats en mécanique, il y a les NCAP ici du calorimètre d'armon liquide d'Atlas, donc fabriqué en Italie par CIMIC pour 20 millions de francs. Les 30 coupleurs pour TTF réalisés par CPI, je parlerai de la série 1000 sur la diapositive suivante que vous voyez là. Et puis cette enceinte ultra-vide installée sur le faisceau d'électrons de VRA pour mesurer la polarisation longitudinale du faisceau, avec une cafété fabriquée RO. Et André Roumou m'expliquait que c'est pareil dans ce cas-là, c'est que c'est un objet qui était très complexe et qui a. La collaboration avec la société a permis, encore une fois, de faire quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'ils pensaient pouvoir faire au départ. Alors, un autre exemple, c'est les contrats d'études avant industrialisation. Donc ça, c'est quelque chose de différent. Donc j'ai deux exemples ici. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on soumet un projet de R&D devant déboucher sur l'industrialisation du résultat. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore comment on va faire la chose, mais on sait ce qu'on veut à l'arrivée. Et donc on met plusieurs boîtes en concurrence et on leur dit... voilà ce qu'on veut faire, réfléchissez, proposez-nous des solutions pour résoudre notre problème. Donc l'exemple passé en 97, c'est pour Babar, donc ce sont ces réflecteurs qui servaient en fait à réfléchir une partie des photons. Vous voyez, vous avez des photomultiplicateurs là du DIRC, et entre les photomultiplicateurs qui sont circulaires et qui sont alignés, évidemment il y a une zone de surface perdue, donc l'idée c'était de récupérer une partie des photons qui passaient entre les photomultiplicateurs pour les renvoyer vers le photomultiplicateur. Avec ça, on gagne 20% d'efficacité sur la collection des photons. Et 3 sociétés avaient été retenues, et finalement, une seule a pu mener à bien le projet en plaquant du rhodium sur un film de titane tungstène, et c'est la société ICMC qui a fabriqué, et ça a très bien tenu jusqu'ici. en cours un autre type d'exemple, c'est pour XFEL, donc par rapport aux coupleurs qu'on vient de voir, là, les 30 coupleurs qui ont été fabriqués, eh bien, l'idée c'est d'en faire 1000 maintenant en réduisant le prix unitaire d'un facteur 2. Et donc trois sociétés ont été choisies pour proposer une méthode d'industrialisation pour obtenir ce résultat, et donc c'est le coût final du projet est de 20 millions d'euros. Alors maintenant je vais parler de valorisation. Donc ce que j'ai dit là-haut, c'est ce que je viens de dire un petit peu avant, toute collaboration en fait faite avec un esprit constructif va apporter aussi bien au laboratoire qu'à l'industriel un enrichissement technologique. Et ça, c'est la première forme de valorisation. Donc tous les projets dont on vient de parler, donc en exemple de Virgo, c'est une forme de valorisation à la fois pour le labo et pour l'industriel, puisqu'on est chacun à gagner en compétences. Donc ça, c'est le premier niveau de valorisation. Donc ça implique que la collaboration se fait dans un esprit d'ouverture et de communication. Alors ensuite, je voulais évoquer rapidement l'AMO, donc c'est l'atelier de microélectronique d'Orthé qui avait été créé en 1979 par Jean Pérez Ijorba et le directeur de l'IEF. Alors le labo SPI, en fait, c'est le LIMSI, je n'avais pas le nom, mais moi j'ai fait les transparents. Donc mes collègues donc, de l'électronique ont participé, ont cité ces trois projets auxquels ils ont participé, donc qui étaient un mesureur de bruit pour une PME, donc Bure-sur-Yvette, et une mesure des débits d'eau. Donc ces deux projets ont débouché sur des produits industriels, donc il y avait fait un soutien de l'Anvar, et on débouchait sur des produits industriels. Et puis il y a eu un recherche-développement du CERI, Bécule à RATP, donc le projet était fonctionné, mais l'AMO s'est arrêté, et mon commentaire, c'est peut-être que c'était un peu trop loin du cadre de la discipline. Alors là, j'ai cité les deux brevets récents que j'ai déposés avec Eric Delagne, ici présent, pour les brevets, pour la valorisation. On a évidemment de nombreux contacts avec des PME et des grandes sociétés, dont Thales. Et puis j'ai cité le GIE Photonis, qui fait du R&D sur les PM multi-anodes, et actuellement le service électronique collabore pour le développement de circuits intégrés. Et puis nous avons une correspondante de valorisation officielle, qui est Véronique Puy, le laboratoire, qui est ici présente aussi. Alors là, j'ai pris trois exemples de valorisation, trois exemples différents. Donc un premier exemple, valorisation suite à recherche et développement. Donc Axon avait collaboré avec le laboratoire pour développer ces deux types de câbles, que vous voyez ici, type A, type B pour Atlas. Et suite à ça, finalement, ils ont mis ce produit à leur catalogue. Donc, j'appelle ça finalement donc évaluation suite à R&D. Et vous voyez, en septembre 2003, Peter Jenny, de Porteur d'Atlas, a remis ce prix à Benoît Zetter pour le meilleur fournisseur. Donc il y a une grande satisfaction sur ce travail. Donc vous voyez ces câbles montés ici sur le détecteur. Alors ensuite, je vais être obligé de vous parler un peu de moi. Deuxième exemple de valorisation, c'est une valorisation sur contrat. Donc l'exemple de Metrix, c'est-à-dire qu'on fait un contrat. Donc vous voyez ici, on a un contrat de R&D qui a été signé en 1999 de 1 million de francs. Qui va permettre de développer un produit à l'intérieur duquel nous savons, donc c'était basé sur un des deux brevets dont je vous ai parlé, qui est un brevet commun. Donc ici, c'est une collaboration LAL d'Apnia, C4i Metrix. On a fait cette puce qui est au cœur de cet appareil qui a été vendu à 5000 exemplaires depuis fin 2004, dont 50% à l'export. Donc là, c'est vraiment de la valorisation vers petite et moyenne entreprise. Et puis l'originalité du produit, c'est d'avoir 12 bits de dynamique, c'est le seul du marché, et d'avoir 600 volts entre ses masses. Alors, je ne vais pas me priver du plaisir de remontrer ça, parce qu'on est très fiers d'avoir reçu cette récompense. Ce projet a été récompensé donc en septembre 2005 par le prix Yves Rocard. On a vu cette image ce matin. Donc je suis présent avec Eric Delanne, qui est ici présent, et Francis Cupion, qui est le chef de recherche et développement chez Metrix. Troisième exemple et dernier de valorisation, c'est ce que j'appelle la valorisation clé en main. Donc vous développez un produit au labo, et puis un industriel va pour des manips de physique. Donc vous voyez, en fait, ce produit en fait, est développé en collaboration entre le LAL et le DAPNIA. Pour une manip de physique, donc pour la DAM, en fait, aux États-Unis. Et elle est utilisée dans de nombreuses expériences de physique, et elle a porté intérêt pour deux sociétés qui ont signé des contrats de licence, parce qu'elle contient les puces qui sont là, en fait, qui sont basées sur le brevet dont je vous ai déjà parlé. Donc ça veut dire, l'industriel dit, j'ai un produit, vous avez développé un produit, ça m'intéresse, je le prends tel quel et je le vends tel quel. Vous voyez, donc il n'y a pas de contrat, c'est juste ce que vous avez fait convient à quelque chose qui peut convenir à l'industrie. Donc c'est un troisième type de valorisation. Alors maintenant au niveau IN2P3, parce qu'on parle du LAL mais on n'est pas tout seul, l'IN2P3 est composé de 18 laboratoires et chacun a une palette de compétences qui ont été recensées en fait dans les mises à disposition des industriels. Donc nous avons actuellement une incitation de plus en plus forte de nos dirigeants pour réaliser valoriser nos compétences. Hein. Donc il y a un chargé de valorisation mis en place dans chaque labo. Et puis des fiches descriptives de spécialités sont disponibles, qu'on doit remplir des fiches spécialités pour les industriels. Un article très intéressant dans une revue d'électronique, donc j'ai fait un résumé de ce qui avait marqué dedans, et ce qui est assez intéressant. Donc, il y a eu récemment donc, un chargé de mission nommé pour la relation avec les entreprises, hein, qui est Marc-Jacques Ledoux, et une direction de la politique industrielle va ainsi être créée dans les prochains mois au niveau du CNRS. Et donc l'idée avancée, c'est d'aller plus loin que ce que faisait la DAE, la délégation aux entreprises jusqu'ici, qui en fait gérait en aval, on va dire, la relation avec les entreprises, c'est-à-dire qu'on a des projets de recherche. Et la DAE, en fait, vous voyez, à partir de la recherche qu'on fait, quel pouvait être l'intérêt des entreprises par rapport au développement qu'on faisait. Alors là, l'idée, en fait, c'est d'aller en amont définir les axes de recherche. Ça veut dire que il y aura une discussion en amont entre le CNRS et les entreprises pour savoir, pour définir finalement quels sont les verrous technologiques des entreprises, pour voir si ces thèmes de recherche peuvent être intégrés en fait dans les thèmes de recherche du CNRS. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau et qui va assez loin. Et donc l'idée, c'est d'associer la recherche publique et la recherche privée. Donc vous voyez, en particulier dans les pôles de compétitivité, et comme on en fait partie, on est concerné. Et ce qui est prévu, c'est qu'une base de données de compétences de 1600 labos, donc de tout le CNRS entier, sera bientôt mise en ligne. Alors voilà ma conclusion de ce que je viens de vous dire. Donc le LAL partage une longue histoire avec l'industrie, donc comme vous avez pu le voir, et donc comme je vous l'ai dit, j'ai dû en rater une grande partie. Nos relations sont de tout type, donc le quotidien, les appels d'offres dont on a parlé, et puis la valorisation avec ou sans transfert, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait de la valorisation avec transfert et de la valorisation sans transfert. Quand on vend un produit tout fait, il n'y a pas de transfert en fait. Hein, l'industriel va reproduire notre produit. Par contre, quand on développe ensemble, il y a un transfert de technologie. Alors il peut y avoir une licence, il peut y avoir des licences de savoir-faire, il y a plein de méthodes, mais il peut y avoir rien du tout. Donc ce qui se passe effectivement actuellement, c'est qu'avant, il y avait... La politique industrielle était, au niveau propriété intellectuelle, était quelque chose qui était très peu développé. Et c'est clair que depuis quelques années, on nous incite à protéger les choses, ce qu'on fait. Donc c'est assez difficile, dans un domaine comme le nôtre, dans lequel on est habitué à dire tout ce qu'on fait, à publier, et dans lequel c'est important d'ailleurs de publier dans les conférences les choses qu'on fait, aussi bien pour les physiciens que pour les ingénieurs, hein, de venir dans un domaine où on nous dit « attention, il faut protéger, donc il ne faut pas parler de ce que vous faites pour faire de la propriété industrielle ». Donc là, il y a quand même quelque chose qui est difficile à gérer pour nous. Et donc ce que je vous ai marqué là, donc aussi dans nos relations avec l'industrie, contrairement à d'autres branches du CNRS qui se financent parfois à 50% par les contrats, nous on a le boson de Higgs, c'est pas quelque chose qui va faire vendre, qui va attirer les industriels, donc on peut pas faire d'autofinancement. Hein. Donc de toute façon, on n'est pas dans ce cas-là. Hein. Donc l'objectif de la direction du CNRS 23, ça semble être de rendre les liens plus forts avec l'industrie, comme je viens de vous dire. Et puis je pense que nous avons montré avec notre histoire que nous en avons les capacités, seulement il faut faire attention, pour la valorisation, il faut une position claire et les moyens mis en œuvre qui soient clairs aussi, parce que sinon on ne sait pas comment on se situe et on ne veut pas sortir du cadre en fait du travail qu'on doit faire. Donc ça c'est très important pour les ingénieurs. Enfin quelques remerciements donc aux industriels présents d'avoir répondu à notre invitation, j'espère que ce que j'ai raconté les aura intéressés. À ceux qui m'ont beaucoup aidé à préparer cette présentation, parce que vous pouvez imaginer que dans tout ça, j'ai eu besoin de récupérer beaucoup d'informations, donc en particulier Pierre et André, et puis tous les autres qui se reconnaîtront. Et puis, je vous dis à tout à l'heure, dans le ciel de Paris, puisque je suis le dernier à vous parler.
Merci. Merci beaucoup, Dominique.